Dieu pour 2020 à chacun et à chacune. Que Dieu vous accompagne durant cette année. Alors, aux nouvelles télévisées du 1er janvier, deux personnes, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu peut-être, un prêtre et une mère de famille ont témoigné de leur résolution pour 2020. Le premier, donc le prêtre, a vendu sa voiture et la mère de famille a décidé de cuire moins de viande durant 2020. Et ce qui a motivé leur choix, eh bien, c'est très clairement la protection de la nature. D'où ma question ce matin, qu'est-ce qui motive nos choix ? Peut-être tout particulièrement en tant que chrétien. Et je vous propose ce matin quelques éléments de réponse. Je ne vais pas répondre entièrement à la question posée, mais j'aimerais simplement vous donner quelques éléments. Le premier, le service, la vie, la raison et l'éternité. Et il est clair que si je parle de choix ce matin, ça concerne les choix qui ont une influence sur les différents domaines de notre vie, voire sur notre parcours de vie, voire même peut-être sur le parcours de vie de quelqu'un d'autre, et non pas des choix que nous faisons quotidiennement, à savoir est-ce que j'achète plutôt des bananes que des oranges. Ça, ce sont des choix qui ne nous créent pas forcément des casse-têtes. Alors, un premier élément de réponse, le service. Dans Josué 24, nous lisons que Josué, à la fin de sa vie, a rassemblé le peuple pour lui rappeler tous les bienfaits que le Seigneur avait faits à leur égard. Et au cours de son discours, il place le peuple devant un choix, celui de servir les dieux qui ont servi leur père ou alors de servir l'Éternel. Et Josué dira cette phrase que nous connaissons certainement tous, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, l'Éternel. » Et le peuple lui-même a confirmé ce choix en disant « Nous servirons l'Éternel. » Et alors ce choix, automatiquement, a influencé les valeurs, le comportement de ce peuple. Et la première conséquence qui a eu lieu suite à ce choix, c'est qu'ils ont décidé de supprimer les dieux étrangers et d'incliner leur cœur vers le Seigneur. Josué savait très clairement que choisir les dieux étrangers lui créerait des difficultés, l'empêcherait de servir le Seigneur et le conduirait vers des échecs, des égarements, la ruine. Et combien de fois le peuple de Dieu n'a-t-il pas choisi de servir les dieux étrangers et nous savons les conséquences que cela a eues dans son parcours de vie. Alors pour nous, choisir de servir l'Éternel influencera notre attitude, influencera nos valeurs, notre comportement. Et cela aura des conséquences sur nos autres choix, les choix que nous faisons dans la vie. En effet, ceux-ci ne seront pas un obstacle ni une barrière au service pour lui dans notre vie de tous les jours, voire aussi au sein de l'Église. Et pour moi, je souhaite que nous puissions tous être motivés par le service pour le Seigneur lorsque nous faisons nos choix. Posons-nous la question. Est-ce que mon choix me permet de servir le Seigneur ou pas? Je crois que c'est une question que nous sommes appelés à nous poser. Un deuxième élément de réponse, la vie. Alors, est-ce que ça marche? Ok, merci. J'avais oublié. Désolé. Voilà. Un deuxième élément de réponse, la vie. Deutéronome 30, 19 à 20. Et là, il est dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et le dernier bout de phrase, je trouve très intéressant, c'est lui qui est ta vie. Une fois de plus, dans cet exemple, nous voyons le peuple de Dieu placé devant un choix, celui de choisir la vie, la bénédiction, ou la mort et la malédiction. Mais avec cet encouragement de la part de Dieu de choisir la vie, donc de le choisir lui. Et quel était le but? Pour aimer l'Éternel, pour lui obéir, pour s'attacher à lui. Là encore, nous voyons le peuple de Dieu qui a régulièrement choisi l'amour plutôt que la vie. Ce qui leur a créé bien des difficultés, voire des drames, comme par exemple la déportation à Babylone. C'était suite à des choix, à des mauvais choix de la part du peuple que Dieu est intervenu. Choisir la vie influencera comme tout à l'heure notre attitude, notre comportement, nos valeurs automatiquement, ce qui aura aussi des répercussions sur nos autres choix. En effet, ils seront le reflet de notre amour pour Christ, le reflet de notre attachement à lui, le reflet de notre amour pour lui. Ils ne nous détourneront ni ne nous éloigneront de lui. Et ce qui est intéressant et qui n'est pas à oublier, c'est que aimer le Seigneur, lui obéir, eh bien, cela est lié à la bénédiction de Dieu, à la paix, à la joie, au ressourcement, tant de choses que l'être humain recherche, mais malheureusement, il le cherche souvent ailleurs. Nous avons cependant aussi la possibilité, comme le peuple d'alors, de choisir l'amour. Mais comment est-ce qu'on peut choisir l'amour en tant que chrétien? Eh bien, je pense que Jacques nous donne une explication dans son épître, au chapitre 1, les versets 14 et 15. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre l'amour. Frères et sœurs, si nous faisons nos choix en fonction de ce qui nous attire ou nous séduit, c'est-à-dire si nous répondons positivement à la convoitise, celle-ci enfantera le péché et aura comme conséquence l'amour. Il y a ici un peu comme une spirale, celle de l'amour. On est aspiré vers cela, vers ce que nous ne voulions pas aller. Et oui, c'est vrai, vous avez certainement tous des exemples dans votre vie où vous avez choisi l'amour, où vous avez répondu à la convoitise, à la séduction. Et ça vous a conduit où? Ça nous a conduit où? Bien vers l'amour, non pas physique, parfois peut-être ça peut même arriver, mais par l'amour spirituel. Cette barrière qui s'est mise entre Dieu et nous. Et je souhaite aussi, comme tout à l'heure, que nous puissions être motivés par la vie, par l'Éternel, c'est-à-dire par l'amour pour Dieu, par notre obéissance et notre attachement à lui, lorsque nous faisons des choix. Un troisième élément de réponse, c'est la raison. Ici, il s'agit de faire des choix conformément au bon sens, d'une façon réfléchie et qui tiennent compte de la réalité. L'inverse serait de faire les choix selon nos intuitions, selon les sentiments. J'y reviendrai tout à l'heure à ce sujet. Alors, je vous propose trois exemples. Le premier est tiré de la prière de Jésus à Gethsémané, Matthieu 26, 37 à 39. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » À mon avis, il est évident ici que le choix de Jésus d'accepter de mourir pour nous, pour l'humanité, était un choix où la raison a été grandement sollicitée. En effet, j'ai l'impression que le combat se situait entre ses sentiments qui lui disaient de ne pas aller à la croix, d'où cette angoisse, cette tristesse, et la raison, et j'ajouterai aussi l'obéissance, qui lui disait « mais tu es sur terre pour accomplir une œuvre parfaite ». Et la raison a pris le dessus, et heureusement, parce que nous ne serions pas ici ce matin réunis au nom du Fils de Dieu. Le deuxième exemple concerne Pierre. Un exemple que nous connaissons aussi, Matthieu 26, 33, 35. Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Pierre se trouvait ici dans une situation pathétique qui l'a bouleversé, malgré que le Seigneur les avait avertis. Et alors, il a laissé parler ses sentiments, il a laissé parler son intuition. Et nous connaissons le résultat qui en a découlé. Pierre n'a pas pris le temps de réfléchir aux conséquences du choix qu'il a fait, de la promesse qu'il a donnée à Jésus. Heureusement, plus tard, le Seigneur l'aura restauré. Et le troisième exemple nous touche d'un peu plus près et nous concerne probablement toutes et tous. En effet, qui n'a pas un jour ou l'autre chanté un chant avec des paroles telles que celle-ci « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien » sans réfléchir aux conséquences de ce que ça peut être. Nous l'avons chanté peut-être parce que l'ambiance de la louange nous a envahis. Peut-être nous étions avec nos pensées déjà quelque part en train de manger notre rôti ou que sais-je. Mais la raison n'a pas pu faire son travail. Nous n'avons pas dit, mais si je chante ce chant, qu'est-ce que ça aura comme implication dans ma vie? Si je choisis de tout remettre entre les mains de Dieu, qu'est-ce que ça aura comme implication. Et je crois qu'il vaut la peine de faire fonctionner la raison quand nous faisons des choix. Le Seigneur, il nous a donné une intelligence. Nous avons été créés à son image. Le Seigneur, Dieu, il a une intelligence. Il réfléchit avant d'agir. Nous le voyons au travers de toute la Bible. Alors, pour ne pas être mal compris, et je dirais peut-être particulièrement par la gente féminine, je tiens à donner une précision. Je ne prétends pas que les sentiments et les intuitions doivent être absents lors d'un choix. Mais à mon avis, la raison doit les accompagner. La raison doit être inclue dans ces choix que nous faisons peut-être avec plus de sentiments ou par intuition. Et faire ce genre de choix peut nous conduire à dire ce fameux « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais jamais fait ce choix. Et vous connaissez la réponse, non? T'aurais dû réfléchir avant. Eh oui, parfois on aurait dû réfléchir avant de faire un choix. Mais on a peut-être été envahi par les sentiments, par les intuitions, et on s'est laissé aller. Et c'est après coup qu'on se rencontre. Ouf, mince, j'aurais pas dû. Et un quatrième élément de réponse, l'éternité. Et nous trouvons là dans 1 Corinthiens 3, 11 à 15, ceci. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, sous-entendu le jour du jugement, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc il ne s'agit pas ici de perdre le salut si on se loupe dans nos choix. Parce que le salut nous est acquis par Jésus-Christ que nous avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Mais il s'agit de récompense. Alors, dans ce texte, il est question de construire un édifice, en l'occurrence le royaume de Dieu ou l'Église. Et pour cette construction, les serviteurs tels que Paul, Apollos et nous, aujourd'hui, nous choisissons différents matériaux qui représentent nos œuvres. Évangéliser, prêcher, accueillir, présider, et j'en passe. Et selon ce texte, certains matériaux résisteront au feu et d'autres ne résisteront pas au feu. Où est la différence? Eh bien, dans le choix des matériaux, justement. Qu'est-ce que nous choisissons comme matériaux pour construire? Alors, ceux qui subsisteront, ce seront les matériaux qui ont une valeur éternelle, c'est-à-dire les œuvres qui correspondent à la pensée de Dieu, au message de la parole de Dieu, qui sont motivées par l'humilité, par la fidélité, par l'amour, par l'honnêteté, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Tandis que les matériaux qui n'ont pas de valeur éternelle ne résisteront pas au feu. Ce sont les œuvres motivées par l'égoïsme, par l'hypocrisie, par l'orgueil, la compétition, la jalousie. Est-ce que nous n'avons jamais rien fait par jalousie, par comparaison, par recherche de gloire? Eh bien, je souhaite aussi ici que nous puissions tous être motivés par la dimension de l'éternité lorsque nous faisons nos choix. Est-ce que mon œuvre a une dimension éternelle? Je le souhaite que nous puissions vivre cela ainsi. Et je résume, il est vrai que certains choix sont complexes, sont difficiles, parce qu'ils ont une influence sur notre vie, une influence sur peut-être la famille, sur la vie de nos proches. Donc il vaut la peine de se poser quelques questions. Ce ne sont pas les seuls que je vous propose ce matin. Il y en a certainement d'autres. Mon choix est-il motivé par le service pour le Seigneur? Est-ce que... C'est vrai, je n'aime pas parler de moi, mais je vais quand même vous citer un exemple. Quand j'étais jeune, je mettais de l'argent de côté pour acheter une voiture. C'était ma première voiture. Et un couple d'amis a eu un pépin. Ils étaient fermiers et leur ferme a brûlé complètement. Ils ont pratiquement tout perdu. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur. C'est vrai, tu as économisé pour acheter une voiture, mais ces gens-là, ils ont besoin de ton argent. J'ai fait un choix, celui de renoncer d'acheter la voiture, j'ai pu en acheter une plus tard, renoncer à acheter la voiture pour pouvoir donner l'argent à ses amis. Voilà comment on peut servir le Seigneur par nos choix. Posons-nous aussi la question, est-ce que mon choix est-il motivé par mon amour pour le Seigneur, mon désir de lui obéir, de m'attacher à lui? Mon choix est-il motivé par la raison? Mon choix est-il motivé par la dimension de l'éternité? Tant de questions. Vous allez dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Se poser toutes ces questions. Mais on sait qu'il vaut mieux parfois attendre 15 jours avant de prendre une décision plutôt que de la faire sur un coup de tête, comme on dit. C'est important. Et alors, en conclusion, voici encore un conseil, je dirais général, qui pourra peut-être vous rassurer. Laissons-nous imprégner par la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, en l'étudiant, et faisons confiance au Saint-Esprit qui saura nous éclairer. Et je suis persuadé que nos choix se feront selon la pensée du Seigneur, seront en accord avec lui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a imprégnés. Mais pour ça, il faut la lire, pour qu'elle puisse nous imprégner. Et j'aimerais simplement, vous avez vu qu'il y a un verre, ce n'est pas une potion magique qu'il y a à côté, j'aimerais simplement illustrer mes propos par un petit exemple. Si je parle sans micro, ça va, depuis ici? Ça joue, ok. Alors, ce verre représente en fait
notre vie, vie de chrétien, c'est un intérieur qui a été purifié par le sang de Christ. Un intérieur qui a accepté d'être influencé par la parole de Dieu. Et le Seigneur, quand il était sur terre, il a dit « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Donc, c'est quelqu'un qui s'est laissé imprégner par la parole de Dieu. Bon, chaque image a sa faiblesse, on ne sera jamais si clair que cette eau qu'il y a là-dedans. Mais vous comprenez l'image. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais mes choix, mes choix correspondront à ce qui est intérieur chez moi. Donc, une vie sanctifiée, une vie imprégnée par la parole de Dieu. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si on ne se laisse pas influencer, imprégner par la parole de Dieu, il faut savoir une chose, c'est que c'est le monde qui va nous influencer, dicter ce que nous devons faire comme choix. C'est lui qui va nous dire ce qu'il faut faire. Et le monde va nous influencer, il nous influence positivement, mais je parle ici des éléments négatifs. Alors qu'est-ce qui se passe si le monde nous influence? C'est du Nescafé, si jamais. Voilà à quoi peut correspondre un intérieur qui se laisse influencer non pas par la parole de Dieu, mais par d'autres choses que la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà mes choix que je ferai avec un intérieur tel que celui-là. Bien que le Seigneur vous bénisse durant 2020 et que nous puissions tous, moi compris, ce message, il est pour moi aussi, que nous puissions tous faire des choix qui honorent et glorifient notre Seigneur. Amen. Amen.